Bonsoir. Les caucus des députés du Grand Nord a rencontré hier mardi le ministre de la Défense nationale pour lui parler de la dégradation de la situation sécuritaire dans la région. Les élus des Beni, Boutembo et Lubero ont exprimé leur inquiétude sur le fait que certaines positions des FARDC dans la zone sont dégarnies au profit du déploiement de l'armée à Rutshuru pour les opérations militaires contre la rébellion du M23. Il y a une semaine, environ 24 civils ont été tués par les ADF dans les territoires de Beni. De son côté, la société civile de l'Ituri a exprimé la même inquiétude et a recommandé aux autorités militaires de réoccuper les positions laissées vides par les FARDC dans les zones où opèrent librement ces ADF. En réponse, les autorités militaires ont annoncé avoir renforcé ces derniers jours la présence des FARDC dans plusieurs zones, notamment à Boga et à Tchabi, au sud du territoire d'Irumu. Dans ce dernier territoire, 5 personnes, dont 4 enfants d'une même famille, ont été tués samedi 9 juillet dans la soirée, dans une attaque attribuée aux rebelles ougandais ADF. Que pensez-vous des inquiétudes de la population du Grand Nord et celle de l'Ituri? Nous en parlons ce soir avec le professeur Jacques Ndjoli, professeur de droit constitutionnel. Il est député national et vice-président de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Professeur Jacques Ndjoli, bonsoir. Je crois que nous l'avons perdu. La réalisation, on va essayer de le rappeler. Jean-Baptiste Mwindo Kasekwa, député national élu de Goma au Nord Kivu et secrétaire général adjoint de l'ECID, parti membre de la coalition Lamoukia. Il est membre de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Jean-Baptiste Mwindo Kasekwa, bonsoir.
Oui, bonsoir madame. Bonsoir à tous les auditeurs.
Et le professeur Chobert Agenongia, professeur à l'université de Kisangani, spécialiste dans les domaines des études de sécurité, de géopolitique et de sociologie militaire. Professeur Chobert Agenongia, bonsoir.
Bonsoir.
Comme d'habitude, vous êtes très nombreux à réagir. Au thème de ce soir, c'est le cas de Patrice Mouderoy, depuis Bukavu au sud Kivu. Au regard de la situation sécuritaire de Beni, Boutembo et Ituri, les forces loyalistes ne devraient pas être vidées de leur position au profit de Rutshuru, où les M23 opèrent sans inquiétude, car on sait que la guerre dans l'Est est asymétrique, que donc l'ennemi peut attaquer de n'importe où et n'importe quand. D'où la nécessité de recourir à d'autres bataillons des provinces plus ou moins en paix pour renforcer celle de Rutshuru. À Bunia, dans la province de l'Ituri, vous nous suivez sous la 104.9. Et si vous êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radioocapi.net ou encore sur Canal Plus, Channel 572. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Radio. Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Au Nord Kivu, 7 personnes ont été tuées par des présumés ADF dans la nuit de mardi à ce mercredi en plein centre-ville de Beni, au quartier Rwangoma, dans la commune de Béou. Selon les témoignages recueillis sur place, plusieurs autres civils ont été blessés au cours de cette attaque. L'armée est intervenue pour repousser l'ennemi. André Kitenge pour les détails.
C'est aux environs de 20h heure locale que cette attaque a eu lieu au quartier Rwangoma dans la commune de Béou. Selon l'armée, les assaillants seraient venus des collines voisines de Kamiri et Mamoma avec un pisteur kidnappé dans le même quartier quelques jours avant par ces assaillants. Pendant leur incursion, ils ont tué par balle 6 civils dont une femme et une autre victime qui a succombé à la suite de ses blessures à l'hôpital. Un mouvement de la population vers le centre-ville de Beni a été observé cette nuit pendant l'attaque. Pour le porte-parole du secteur opérationnel un grand nord, l'objectif de l'ennemi n'était pas d'attaquer la ville, mais plutôt de faire diversion aux troupes des FARDC afin d'organiser une attaque à la prison centrale de Kangwai pour tenter de libérer les leurs, parmi lesquels un financier du groupe rebelle de l'ADF arrêté il y a 4 mois par les FARDC. Une situation qui a provoqué la colère des jeunes du quartier qui voulaient manifester pour protester contre cette énième attaque en plein centre-ville de Beni et à moins de 2 kilomètres de l'état-major du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord. André Kitenge, Beni Radio Okapi.
Merci André Kitenge pour ce reportage dans la province de l'Ituri. On annonce aussi une nouvelle attaque des rebelles des ADF. La nuit dernière, 3 personnes ont été tuées et 7 autres enlevées par ces rebelles à Kiabangazi dans la région de Boga, selon des sources locales. Ces rebelles ont également enlevé 3 civils. La société civile locale parle des 4 attaques de ce groupe armé enregistrées en l'espace d'une semaine dans cette zone, causant la mort d'une dizaine de personnes. Martial Kizabia Mungu pour le reportage.
Les habitants de Kiabangazi, à 3 km de Boga Centre, dans les territoires du Romo, ont été surpris par plusieurs coups de balle alors qu'ils étaient encore dans leur maison ce mardi soir. Selon plusieurs sources concordantes, ces rebelles des forces alliées et démocratiques ADF en provenance de la forêt de Zunguluka ont investi cette localité en s'introduisant dans des maisons d'habitation. Certains habitants ont été soumis à des actes inhumains et d'autres menacés de mort. 3 personnes ont été tués par balles. La société civile de Boga parle également de 5 maisons incendiées par ses assaillants. L'intervention des FRDC dans la région a permis de limiter les dégâts. Avant de se retirer de Kiabangazi, ces rebelles ont pris en otage une jeune fille et 2 enfants, rapporte la société civile locale. Cette structure parle d'attaques de trop de ses ADF dans plusieurs entités dans la région de Boga et Kiabi après une accalmie observée. Elle plaide pour l'intensification des opérations conjointes FRDC armée ougandaise dans la région de Boga et Kiabi où ces malfrats se sont de nouveau réorganisés. Bounia, Martial Kizabia Mungu, Radio Okapi.
Merci Martial Kiza pour tous ces détails. Professeur Jacques Njoli, vous êtes en ligne?
Je suis en ligne, madame.
Professeur de droit constitutionnel, vous êtes député national et vice-président de la Commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Les députés du Grand Nord et ceux de l'Ituri sont inquiets à cause de la dégradation de la situation sécuritaire et dans le Grand Nord et en Ituri. Qu'est-ce que vous pensez de leur inquiétude, professeur Jacques Njoli?
Les collègues du Nord Kivu et des Ituri, qui ont fait d'ailleurs une déclaration et qui ont rencontré hier les ministres de la Défense, sont inquiets, et avec eux, nous sommes tous inquiets et préoccupés par cette recrudescence de la violence dans la province de l'Ituri et dans la province du Nord Kivu particulièrement, aux environs de Beni. Nous comprenons leurs préoccupations et les explications liées au déplacement des troupes essentielles et spéciales vers le Nord Kivu, particulièrement dans le territoire des Rutshuru, où nous sommes en face, pas d'une rébellion, mais d'une armée conventionnelle d'un pays étranger, l'M23, et ça a exigé énormément de renforts pour, n'est-ce pas, essayer de bloquer leur progression vers autour au centre et vers la ville de Goma. Et voilà pourquoi il y a eu cette opportunité qui a été exploitée par ces bandits de l'ADEF et autres CODECO pour renforcer leur les opérations terroristes aux environs. Mais je crois que le commandement qui a pris note de ces inquiétudes va essayer de colmater le brèche et prendre en compte la totalité de la menace, c'est-à-dire qui va du côté du nord, du côté de l'Ituri, qui descend au nord Kivu avec axe principal de l'effort autour de Beni et de Rutshuru, et mais qui va aussi où on doit rester prudent du côté des Masisi où il y a un réveil de groupes armés locaux et vers le nord, le sud Kivu, particulièrement dans du côté des Minembe et des autres. Donc voilà la situation. Et je crois que l'état-major général, avec l'ensemble des forces alliées et autres MONUSCO, doit prendre en compte cette évolution opérationnelle. Ça a déjà été fait parce que vous avez suivi qu'il y a eu des réaménagements au niveau de commandement, notamment pour renforcer le commandement opérationnel en faisant venir le commandant de la zone de défense directement à Goma pour essayer d'assister le gouverneur militaire. Il y a aussi des changements au niveau du commandement des opérations du secteur avec le mutation au niveau de la région militaire et des commandements de Sokola 1 et 2. Nous espérons que ces efforts, couplés avec les alliés et les partenaires, nous permettront, n'est-ce pas, de restaurer la situation et de protéger notre population.
Les FRDC se battent sur plusieurs fronts, professeur Jacques Cantouli. Il y a un auditeur qui pense qu'il fallait prendre les bataillons qui se trouvent dans les provinces plus ou moins en paix pour renforcer ceux de Rutshuru au lieu de dégarnir les positions des FRDC dans le Grand Nord et dans l'Ituri.
Il faut d'abord savoir que l'ennemi qui est en face de nous, ce n'est pas un ennemi traditionnel, c'est un ennemi asymétrique dont le mode opératoire est essentiellement le mouvement et une opération par de petits groupes. Compte tenu de la spécificité du terrain, vous pouvez stabiliser Irumu, vous pouvez stabiliser Mambasa, ils vont chercher l'occasion pour aller frapper à Boga. Vous pouvez bloquer du côté des Kassini, ils vont prendre du côté, n'est-ce pas, de Beni. Ce qui est important, c'est de prendre la menace d'attente des validités et, n'est-ce pas, de chercher une réponse holistique qui nous permet de faire face, n'est-ce pas, à toute cette situation qui dure depuis 20 ans et qui exige une approche holistique, c'est-à-dire une approche militaire adaptée, mais aussi l'implication rapide du programme PPDRC pour avancer. Voilà pourquoi, avec les collègues du Touri et du Nord Kivu, nous espérons que la nouvelle donne créée par l'invasion de MV3 appuyée par l'RDF du Rwanda, mais aussi la future présence du commandement de l'East African Community, doit être précédée, à notre avis, par une table ronde, comme promis avec le chef de l'État, pour que nous puissions analyser l'ensemble de la menace et dégager une architecture capable de nous permettre de résoudre cette question. Sinon, on risque d'avoir une problématique où on tourne un peu en rond et qui finalement, nous avons toujours cette population, cette pauvre population civile qui fait les frais de ces bandits et peut-être aussi une autre difficulté d'organisation et de commandement.
Jean-Baptiste Mwindo Kasekwa, vous êtes député national élu de Goma au Nord Kivu et secrétaire général adjoint de l'ECID, parti membre de la coalition La Mouka. Vous êtes également membre de la société, de la commission plutôt, défense et sécurité. À l'Assemblée nationale, vos collègues et vous-même êtes inquiets de la dégradation de la situation sécuritaire dans le Grand Nord. Pensez-vous qu'on pouvait éviter cette dégradation, Jean-Baptiste Kasekwa?
La situation est très, très chaotique. Dans la commune rurale de Boulongo, hier, des gens ont été tués. Dans la commune de Loumé, le week-end dernier, c'était plus de 21 morts. À territoire d'Irumu, en Ituri, à Djougou, dans le territoire de Mambasa, c'est pareil. Depuis dimanche, la Fédération des entreprises du Congo, la FEC, Boutembo, Beni, Kassindi, ont décrété un mouvement de grève pour ne plus importer des marchandises à partir de l'Ouganda. Parce que, selon le monitoring que nous avons fait pendant l'état de siège, pas moins de 250 gros véhicules ont été incendiés avec des marchandises dedans. Donc, la population est dans un état d'angoisse. Elle ne peut plus accéder à ces champs dans le territoire, dans le secteur de Wenzori, comme autour de Ouicha. Mais non seulement les champs sont inaccessibles, mais les populations cantonnées dans des grandes agglomérations comme Oicha, comme Boulongo, comme Kassindi, comme Loumé et partout même dans la ville de Beni ne sont pas épargnées des attaques. Le reportage de votre collègue l'a bien dit. L'attaque de cette nuit a eu lieu près du quartier général des FARDC des opérations Sokola 2. Sokola 1 à Beni. Si déjà notre armée n'est pas capable de protéger son quartier général, qu'en sera-t-il des villages éloignés? Il a bien dit, le porte-parole de l'armée, que la menace pèse sur la prison centrale de Kangwaï, dans laquelle se trouvent nos militants de la Lucha, qui sont emprisonnés depuis plus d'une année pour avoir dénoncé l'inefficacité de l'état de siège. Donc, les inquiétudes sont grandes. Il est temps que des responsabilités soient établies parce que, depuis 2019, nous avons régulièrement saisi l'état-major général, la présidence de la République, que à cette année-là, pas moins de 1070 civils avaient été tués. Et avant même que Félix ne prenne le pouvoir, en 2018, 914 civils venaient d'être tués.
au lieu de prendre des mesures et faire de la refondation de notre armée la priorité des priorités, on a accordé la priorité dans les sauts de moutons, dans la construction des maisons préfabriquées, dans le détournement des millions. Pendant ce temps-là, les habitants de Beni, de Irumu, de Djougou, de Sud Kivu ont continué à être tués. En 2020, le nombre de tués est passé à 1567. En 2021, c'est plus de 2000 décès. Pendant l'état de siège, la situation a dégénéré. Il est temps.
Jean-Baptiste Kassé, quoi?
Sur toute la chaîne de commandement.
Jean-Baptiste Kassé, quoi? Qu'est-ce qui expliquerait, selon vous, la dégradation de la situation sécuritaire dans la région? Pourtant, lorsque on a décrété l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et des Lituri, et même lorsque les opérations conjointes FRDC et UPDF ont commencé, on a observé une certaine accalmie dans la zone. Mais qu'est-ce qui peut expliquer aujourd'hui cette résurgence ou ce regain d'insécurité?
Madame, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Les opérations grande envergure et Oumoujaouetou ont été lancées en 2019, mais sans un contenu réel. En termes d'effectifs militaires, l'état-major général a continué à entretenir des effectifs fantômes. La même réalité a été observée pendant l'état de siège. Comment aux populations congolaises de Kinshasa de partout, quel prend en charge la question des tueries dans la partie est de la République? Mais pendant ce temps-là, à terme d'effectifs sur le terrain, rien n'est fait. La même difficulté pendant les opérations conjointes. Figurez-vous, madame, parce que il s'agit des vies humaines qui sont en danger, nous ne pouvons plus accepter qu'on nous terrorise au nom des fameux secrets de défense. Dans un régiment, là où l'on devait avoir 1200 militaires, on a traité une fraude. Vous trouvez moins de 200. Et chaque mois, l'état-major et toute la chaîne de commandement, je ne sais pas, il faut un contrôle sérieux. Ça permet de débloquer des fonds pour la différence de 1000 personnes, alors que sur le terrain, ces gens-là ne sont pas là. C'est la même réalité à Beni, la même réalité dans le Matissi, dans les Rutshuru. On doit dénoncer le fait que certaines hautes autorités considèrent les tueries à l'est de la RDC comme un business.
Ce discours n'est pas nouveau, Jean-Baptiste Kassé-Kwa. Plusieurs personnes ont dénoncé cela, mais on a comme l'impression que la situation ne s'améliore pas. Pourquoi, selon vous, un manque de volonté ou c'est fait sciemment?
C'est fait sciemment, madame. C'est à quoi nous avons assisté à Lomé la semaine passée. Laisse penser qu'il y a une complicité dont l'objectif est d'amener à irriter la population de Beni contre l'armée. De cette façon-là, avec cette colère de la population, eh bien, un agenda caché de balkanisation ou de l'apparition d'une nouvelle rébellion dans le territoire de Beni, identique à M23, va surgir et on va accuser les populations locales de complicité avec l'agression. Pourquoi peut-on éviter de sanctionner des commandants, des unités sur lesquelles la population donne des alertes, donne des preuves de complicité dans des crimes et l'auditorat militaire de Patrice garde des silences comme si de rien n'était? Nous-mêmes, comme députés, nous avons présenté des rapports. Au lieu de sanctionner des commandants complices dans des crimes, on procède à une simple permutation d'une dizaine de kilomètres d'un endroit. Une simple permutation dans la même zone et vous retrouvez les mêmes unités dont les comportements sont déplorés pendant plus de 7 ans, pendant plus de 10 ans. Et l'auditeur général militaire garde des silences. Les seules victimes qui doivent être sanctionnées, ce sont les militants des mouvements citoyens, ce sont les opérateurs économiques qui décrètent une grève. Non, trop c'est trop. Le problème se retrouve à Kinshasa, au niveau de la présidente de la République, au niveau du ministère de la Défense, au niveau de l'état-major général, les responsabilités doivent être établies et des sanctions doivent être prises. J'invite mes collègues de l'Union sacrée à cesser la complaisance parce que les vies qui sont en train de tomber à Djougou, à Nirumu, dans les Beni, dans les Rutshuru, dans les Sud Kivu, dans les Tanganyika, ce sont des vies irrécupérables. Nous devons sanctionner le plus durement possible.
Chobert Agenongia, professeur à l'université de Kisangani. Vous êtes un spécialiste dans le domaine des études de sécurité, des géopolitiques et des sociologies militaires. Professeur, comment on peut expliquer cette dégradation de la situation sécuritaire dans le Grand Nord et dans la province des Litouri alors que on a observé il y a quelque temps une certaine accalmie dans cette ces deux parties du pays.
Oui, évidemment, la déficience des effectifs a souvent créé des vides sécuritaires profitables aux bandes armées. Et cependant, je voudrais préciser le fait que, malgré la présence des militaires dont une partie des effectifs venait d'être dégarnie pour renforcer les positions à Rutshuru, on a toujours assisté à des attaques perpétrées par les ADF. Donc du coup, il est important de souligner le fait que la déficience des effectifs ne doit pas être perçue comme le seul facteur qui aggrave la situation sécuritaire dans cette région. Mais en revanche, il y a une certaine déficience au niveau même de l'approche, dans la mesure où nous avons constaté, par exemple, depuis que les opérations conjointes lancées par les FADC et l'UPDF au départ ont visé des cibles précises, mais dès lors, on a assisté à un relâchement et ça a permis aux ADF de se réorganiser. Donc c'est le constat que nous avons fait sur le terrain. Et depuis que les ADF sont rentrés en profondeur du Rumu et de Mambasa, l'impression qui se dégage, c'est comme si l'UPDF avait déjà atteint ses objectifs, en témoignant de la dernière déclaration du général Muhoozi, le fils du président ougandais, qui est le responsable de ces opérations. Il avait clairement déclaré que l'Ouganda allait retirer ses troupes du sol congolais. Donc là, on constate qu'il y a aussi une certaine divergence au niveau même des intérêts des acteurs. Et par ailleurs, il y a lié d'ajouter le fait que la persistance des ADF semble davantage tenir à la déficience dans la planification des opérations militaires, parce que nous avons constaté que les opérations conjointement menées entre les FARDC et l'UPDF ont plutôt constitué un coup de pied dans la fourmilière. Elles ont plutôt permis aux ADF de se disperser et de se réorganiser en des groupuscules pour défier les forces en présence. À cela, j'ajoute le déphasage pour le moins déconcertant qui transparaît dans l'emploi de la force. Donc, on constate que les forces qui sont en présence emploient les moyens conventionnels pour affronter plutôt un groupe dont le modus operandi repose largement sur la symétrie. Et enfin, notre diagnostic sur le terrain, je pense que l'un des intervenants l'a remarqué tout à l'heure, témoigne de l'inexistence d'un mécanisme d'alerte précoce qui permettrait à l'armée de recevoir des alertes sur des menaces éventuelles afin d'être proactive.
Pourtant, la société civile, que ce soit celle de l'Ituri ou du Grand Nord, affirme toujours que les alertes sont là. On alerte les forces de sécurité bien avant, mais on ne prend pas de dispositions pour déjouer ces attaques des ADF dans la région, professeur Agenunga.
Absolument, il n'y a pas un mécanisme d'alerte formalisé, et à part seulement quelques alertes éparses sonnées par les civils, mais lesquelles alertes n'ont jamais été prises en considération. Et par plusieurs reprises, les civils se sont plaints du fait que à chaque fois qu'ils donnaient des informations sur des mouvements suspects, ce sont eux qui étaient considérés comme les suspects numéro un. Il y en a qu'on arrêtait. Et du coup, et la peur s'est invitée. Donc, les gens ont commencé à craindre, n'est-ce pas, de donner des informations aux forces de sécurité. Et notre constat aussi a démontré que la plupart des alertes qui ont été livrées aux services de sécurité n'ont malheureusement pas été prises en compte, mais elles ont finalement débouché sur des attaques. Et là, ça montre clairement qu'il y a une absence criante d'une approche civilo-militaire qui voudrait que l'armée et les civils soient à bonne intelligence pour permettre à ce que toutes les menaces en sécuritaire soient anticipées. Ça permettrait aux civils de donner régulièrement des informations sur le mouvement suspect, et l'armée à son tour en tiendrait compte, parce que nous avons le service des renseignements dont la mission c'est aussi de collecter les informations sur les menaces éventuelles, les recouper, le traiter et le mettre à la disposition des services de sécurité pour que ces derniers agissent de manière proactive, donc et anticipent les attaques éventuelles. Donc voilà la situation qui est en train de prévaloir dans ce parti de la République démocratique du Congo, qui risque de s'aggraver avec l'allègement des dispositifs sécuritaires à Ituri, d'ailleurs dans les territoires d'Ndjougou. Codeco a constaté que certaines positions étaient dégarnies. Du coup, les miliciens ont prétendu qu'à partir de désormais jusqu'à dorénavant, eux-mêmes, ils sont devenus des militaires loyalistes et qu'ils peuvent remplacer valablement les forces de sécurité pour assurer la sécurité de personnes et de biens, que ce soit dans les territoires de Ndjougou. C'est un spectacle désolant à quel on est en train d'assister.
Professeur Chabert,
je pense que ce ne serait pas une bonne approche de dégarnir une position militaire dans une zone
en proie à des menaces
en sécuritaire.
Professeur Chabert, s'il vous plaît.
Chercher des effectifs ailleurs, et dès lors que nous savons que dans les mêmes zones, les effectifs ne sont pas à mesure de couvrir l'ensemble du territoire sur lequel pèsent les menaces sécuritaires.
Alors, professeur, vous avez parlé d'un problème sérieux des effectifs. Comment résoudre ce problème au sein des FRDC?
Alors, la solution urgentissime pour l'instant, c'est de ponctionner sur les troupes qui sont stationnées dans les provinces qui ne sont pas menacées. Je pense que ça pourrait d'une manière ou d'une autre apporter des solutions à la question de la déficience des effectifs. Mais l'autre constat, ça paraît un peu une aberration, et car nous avons même suivi que un certain nombre de formations étaient organisées en faveur des militaires congolais. Il y a par exemple le bataillon Kanin qui devrait achever la formation pour permettre à ce que ces militaires puissent renforcer les troupes et qui sont déjà au front à l'est. Je ne sais pas ce que ces militaires sont devenus, et d'autres unités ont achevé leur formation, notamment à Kamina et à Kinshasa sur place, et même au Gabon. Mais je comprends que on devrait plutôt procéder au rééquilibrage en termes d'effectifs au sein de l'armée, de manière à éviter à ce que les zones qui sont déjà secouées par les sécurités connaissent la situation telle qu'une partie des effectifs militaires soit redéployée ailleurs.
Place aux auditeurs qui sont très nombreux à nous appeler pour donner aussi leur point de vue sur le sujet de ce soir. On va se rendre à Bukavu, au Sud Kivu, pour écouter cet auditeur qui nous appelle. Ça sera pour vous, professeur Jacques Njoli.
Robert Bahomé de Bukavu, au Sud Kivu. Les inquiétudes de la population du Grand Nord et celles de l'Ituri sont fondées. Il ne fallait pas s'y attendre le moins, car cela traduit combien de fois l'état de siège instauré en Ituri et au Nord Kivu est indiscutablement un échec. Je pense qu'il serait mieux que le gouvernement congolais arrête des stratégies beaucoup plus efficaces que cet état de siège, ou carrément retourner à l'administration civile pour que le Nord Kivu et les Turi recouvrent plus ou moins leur sécurité d'antan. Sinon, il y a risque que le mouvement des groupes armés locaux et étrangers persiste dans ces parties de l'est de la RDC.
Professeur Jacques Joly.
Oui, je crois que les inquiétudes soulevées par notre frère de Bukavu sur les limites de l'état des sièges et rejoignent les propos combien douloureux de notre frère l'honorable Kasekwa, élu de Béni, qui vit, comme nous tous d'ailleurs, était au plus vivement encore cette blessure, cette viol, cette violence. La question qui se pose et qui a été discutée au niveau de la commission de défense avec tous les états partenaires, c'est qu'il était établi une faible planification de l'état des sièges. Et nous sommes tous d'accord qu'il était important que cet état des sièges soit requalifié. Mais laissez-moi, madame, vous dire que les problèmes que nous analysons aujourd'hui, les réponses ils sont donnés, semblent être des réponses conjoncturelles qui sont presque des saupoudrages et qui en plus s'aggravent avec l'achèvement de commandement entre les autorités d'état des sièges à Kinshasa, on ne sait pas, entre l'état-major général et le ministère de la Défense qui fait quoi Et sur les terrains, il y a la zone de défense qui est là, il y a les secours là, hein, et en plus, cette confusion sur les effectifs et qui a été soulignée parce que il y a des effectifs réels et des effectifs. Donc, il y a des problèmes conjoncturels et je crois qu'aujourd'hui, recourir aux éléments qui sont à l'Ituri ou ailleurs pour aller colmater les brèches semble être des solutions inadaptées. Et on a vu même l'opération Shuja de l'armée ougandaise. L'armée ougandaise est venue avec un concept opérationnel clair. Il était question de repousser les adeptes qui commençaient à opérer en Ouganda à l'intérieur de la République démocratique du Congo, mais que nous-mêmes, nous étions en déficit stratégique sur cette question-là. Voilà pourquoi, au-delà de l'urgence de l'action pour bloquer, pour réduire ces 140 groupes armés qui pullulent et qui tuent depuis plus de 20 ans, l'important aujourd'hui, c'est la refondation de cette armée. La question des réponses structurelles, elle se pose au-delà des approches conjoncturelles qui s'arrêtent très souvent inadaptées parce que très peu concertées. Voilà pourquoi nous, au niveau de la Commission de défense, nous insistons maintenant pour une table ronde urgente, nonobstant le fait que nous sommes en vacances, avec le commandement, avec le ministère de la Défense, et pourquoi pas le commandant suprême et ses services, pour qu'on définisse finalement quel est le concept opérationnel, quelle est la vision stratégique d'abord de cette partie orientale qui constitue notre base de ressources et de développement, qui intentionnellement est transformée en zone de pillage et de guerre sur commande par nos ennemis, que nous allons chercher pour venir nous aider, et développer une vraie vision stratégique de protection de notre pays, une vraie politique de défense, une vraie loi de programmation et une vraie armée. Parce que aujourd'hui, nous nous trouvons avec des unités éparses, non organiques, mal équipées ou sous-équipées pour faire face à la menace. Bounagana est occupé depuis plus d'un mois. Vous voyez la douleur que nous avons pour plus ou moins 300 écoles qui ne vont pas faire l'examen d'État, qui n'ont pas fait les examens de l'ENAFEP. Donc il y a une situation préoccupante et nous avons l'obligation, en tant que nation, en tant qu'État, en tant que gouvernement, de nous prendre en charge sérieusement et non d'assister à ces opérations de maquillage, de bricolage, de prendre un commandant des zones qui est à Kisangani venir à Goma, dire que le gouverneur militaire, alors que l'ordonnance lui donne le pouvoir en matière opérationnelle, sera maintenant simplement chargé des questions politiques et civiles. Donc, il y a question, madame, d'une réponse cohérente, d'une réponse claire et d'une réponse consensuelle, nation, armée, peuple, pour que nous puissions finalement, donner la paix à notre population de l'Est.
Alors, professeur Chacun, je lis très rapidement, en attendant cette table ronde urgente que vous souhaitez, que vous demandez, l'état des sièges, vous l'avez reconnu vous-même, qu'il y a une faible planification de l'état des sièges. Pourquoi vous, députés nationaux, continuez à voter pour sa prorogation?
Les députés nationaux, et je parle sous le contrôle de mon frère, c'est quoi? Nous avons évalué avec toutes les autorités la situation de l'état des sièges qui a l'orée de sa première année. Et nous avons donné des orientations claires. Nous avons notamment demandé la rectification de la chaîne de commandement. Nous avons réclamé le recomplètement des effectifs, l'équipement de notre armée. C'est ça la mission du législatif, à savoir légiférer et contrôler. En ce qui concerne la prolongation de l'état des sièges, nous avons rencontré les chefs de l'État et le commandant suprême et nous lui avons dit nos réserves sur cette question et il était entendu que nous puissions avoir, cette table ronde pour que nous puissions, dégager une perspective consensuelle. Malheureusement,
merci.
Il y a eu cette question de M23 qui est apparue, mais nous estimons maintenant que cette concertation nationale pour une réponse stratégique, politique,
tactique et opératique claire soit donnée et que de moyens réels soient coordonnés. Je peux vous dire que maintenant, au moment où nous parlons, la commission de défense est en pleine enquête au niveau de l'ensemble de l'appareil de l'État pour savoir exactement quels sont les moyens qui ont été mis à la disposition de l'armée pour la lutte contre les groupes armés et comment ça a été dispatché.
Mais merci, professeur.
Ne peut réussir que si nous avons une réqualification, une réforme sérieuse, pourquoi pas une refondation de notre système de défense qui est totalement inexistante ou obsolète.
Jean-Baptiste Kasekwa, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient encore une fois de Bukavu.
Kevin Mouroula Kadar, je vous écoute depuis la ville de Bukavu, Sud Kivu. Je pense que la solution plus efficace serait d'améliorer d'abord les conditions de vie des militaires congolais. Cela devrait être intéressé la jeunesse à intégrer la carrière militaire. Parce qu'en effet, aucun jeune ne peut envier l'armée vis-à-vis de la vie des familles militaires qui sont moins gradées ou sans fonction. Mais aussi vous trouverez d'autres nouveaux recrutés au front qui n'ont ni salaire, ni ratio, mais aussi sans prime de risque. L'armée congolaise devrait subir une vraie réforme pour mettre fin aux hostilités ici à l'est de la RDC.
Brève réaction, Jean-Baptiste Kasekwa Mwindo. Mwindo Kasekwa.
Les compatriotes ont parfaitement raison. L'armée et tous les services de sécurité doivent constituer la priorité des priorités. Comme je l'ai dit, en 2019, plutôt que de bouffer des millions de dollars dans l'aventure des maisons préfabriquées, dans des sortes de moutons, on aurait dû lancer les états généraux pour la refondation des FRDC. On aurait dû affecter des millions de dollars, même l'argent des rames, à recruter des militaires. Si, par exemple, pour former un militaire au bout de 6 mois, cela peut nous exiger 5 000 $, si l'on disait que nous voulons recruter 50 000, eh bien, 250 millions suffisaient. Le problème, c'est que la priorité du gouvernement est ailleurs. Ce n'est pas l'argent qui manque. C'est même l'amélioration des conditions de vie des militaires dont les compatriotes parlent. Même avec les budgets actuels, si l'on met fin au phénomène des effectifs fantômes, je vous ai dit, j'ai mené des enquêtes à territoire de Béni. Là où on dit que l'on a un régiment avec 1200 militaires, vous trouvez 189. Mais les salaires détournés au nom de plus de 1000 militaires, si ces salaires-là étaient effectivement recouvrés et destinés aux militaires qui travaillent effectivement, leurs conditions de vie serait amélioré et cela motiverait les jeunes à rejoindre l'armée.
Jean-Baptiste.
À la base de tout, il y a l'impunité entretenue par les hauts commandements militaires. Celui qui fait office de commandant suprême ne parvient pas à sanctionner les détournements, les magouilles dont lui-même a parlé, mais il s'est contenté à dénoncer comme un activiste de la société civile.
Professeur Chaubert, on va prendre aussi pour vous très rapidement cette réaction qui nous vient du Maniema.
David Soumaïli Moussafiri depuis Wamaza dans la province du Maniema. C'est un problème réel constaté presque partout. Il est évident que la zone de Bunangana est en danger et mérite une forte force de défense pour repousser le M23. Mais cela ne revient pas à dire qu'on doit ignorer les autres régions d'insécurité en diminuant sensiblement l'effectif des militaires. Nous devons faire attention car nous risquons de protéger Bunangana en mettant en péril le reste de la population de Beni, Butembo et Ituri, voire même d'autres régions qui sont en insécurité. Que le gouvernement, par la force de défense, fasse l'échelle des valeurs pour faire face à toutes ces attaques au même moment. Sinon, les ennemis peuvent même conjuguer ensemble et nous attaquer alternativement là où on sent que nous sommes vraiment faibles.
Professeur Sobera Genunga.
Je suis bien d'accord avec cet auditeur. Et toutes ces menaces sont en train de peser sur l'est de la République démocratique du Congo, à tel point que on ne peut pas dire que la lutte contre le M23 devrait constituer une priorité par rapport aux ADF qui, du reste, constituent le mouvement qui a fait le plus de victimes à l'est du pays. Donc, il va falloir repenser cette approche. Il va falloir, évidemment, prendre tous les groupes armés et le mettre sur la même balance de manière à ce qu'on affecte le moyen et pouvant permettre à les éradiquer très rapidement. Donc, il faudrait pas qu'on donne priorité à la lutte contre le M23 au détriment d'autres groupes armés qui sont entrés pourtant défaucher des vies humaines. Mais par ailleurs, je voudrais ajouter un élément qui me paraît important sur la question des ADEF.
Allez-y rapidement, professeur, parce que nous sommes presque à la fin de l'émission. Je disais, allez-y rapidement, professeur, parce que nous sommes presque à la fin de l'émission.
Aujourd'hui, on ne sait pas comprendre exactement comment est-ce que les ADEF parviennent à s'approvisionner en armes, en munitions. Pourquoi les FRDC ne sont pas à mesure de couper les lignes d'approvisionnement de ces groupes rebelles. Donc, ceci montre clairement que le renseignement militaire a accusé ses faiblesses en cette matière, mais aussi l'on peut affirmer sans le risque d'être contredit que le verre est dans le fruit, la complicité est avant tout interne, car c'est impensable que les ADF qui sont actifs depuis 2014 ne soient pas étouffés dans l'œuf. Ça montre clairement qu'il y a une certaine complicité et que la stratégie qui a été montée ne vise pas exactement la racine du problème, mais ça agit davantage sur les conséquences que sur les racines de problème. Enfin, la table ronde, comme le suggère mes co-débatteurs, ne constitue en rien une solution durable et à cette crise sécuritaire. En revanche, je pense que la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale a produit un rapport bien calibré, un rapport qui a établi un diagnostic pour le moins complet sur les dynamiques sécuritaires à l'Est. Donc, on ne comprend pas pourquoi est-ce que les institutions de la République n'ont pas pris en compte les résolutions qui me paraissent pourtant pertinentes, contenues dans ce rapport, qui pouvaient déjà constituer un début de solution à la crise sécuritaire qui n'a que trop duré dans l'Est du pays.
Merci, professeur Chobert Aguenonga. On va considérer cela comme votre conclusion. Jean-Baptiste Omindo, qu'est-ce que vous pensez de la table ronde que réclament certains députés nationaux? Brièvement.
Non, c'est une distraction. De toute urgence, il faut d'abord lever l'état de siège parce que le gouverneur militaire du Nord Kivu a fait la remise de reprise hier. Il n'a plus la conduite des opérations et donc il faut retourner à l'administration civile. Deuxièmement, il faut mettre fin à l'impunité à l'égard de certaines brebis galeuses au sein des FRDC, principalement secteur de Rwenzori, où certaines unités manifestement travaillent à vue de ternir l'image des FRDC et dresser la population contre l'armée.
Troisièmement,
il faut redéployer à Beni des militaires crédibles, des commandants crédibles pour restaurer la confiance, la collaboration entre la population et l'armée. Et enfin, à l'évent le cas de siège, il faut cesser les tracasseries contre les activistes des mouvements citoyens, des populations.
Merci.
Qui n'ont fait que dénoncer l'inefficacité. Si la confiance est rétablie, la collaboration, on peut mettre fin rapidement à cette tuerie et restaurer la paix dans cette partie de la RDC.
Merci Jean-Baptiste Mwindo Kasekwa. Professeur Jacques Njoli, votre conclusion en 30 secondes. Professeur Jacques Njoli, je crois qu'on a perdu le professeur Jacques Njoli. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à Guy Maté, Donna Madimba et Martin Sebujangui qui m'ont aidé à préparer cette émission. La mise en onde est assurée par Alain Goy, présentation et coordination Kéline Couté. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.